Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bonjour Mathieu.
Bonjour cher Timothée, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission Le Petit Fauteuil de la Philo. Un podcast où nous vous proposons ensemble, Timothée et moi, d'aller plus loin sur les thèmes que nous traitons dans notre plus grande émission Le Fauteuil Philosophique. Ce mois-ci, notre invitée Axelle Michaud, restauratrice de tapis au Mobilier National, nous avait proposé comme thème de réflexion la limite dans la pratique d'un artisanat d'art. Émission que je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais pour l'heure, détendez-vous. Installez-vous bien confortablement dans notre petit fauteuil de la philo, où nous allons vous parler de création, de l'œuvre d'art et du geste de l'artisan.
Dans la préface de son roman « Mademoiselle de Maupin », paru en 1835, Théophile Gautier écrivit ces lignes autant célèbres que provocatrices. Je cite « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants comme sa pauvre et infirme nature. »
D'accord Timothée, mais dis-moi, laid, ignoble, dégoûtant, infirme nature ? Il est un peu dur quand même, Théophile Gautier. Pourquoi donc tant d'emportement ?
Eh bien Mathieu, c'est très simple. Théophile Gautier exprime en des termes vifs la séparation traditionnelle entre le beau et l'utile comme deux termes opposés et irréconciliables. D'un côté, le beau fait appel à notre jugement esthétique en dehors de toute considération pratique. Et en effet, quelle utilité portent en elle des œuvres comme la Joconde ou le Penseur de Rodin ? De l'autre côté, ce qui est utile est défini par sa capacité à combler nos besoins, des plus primaires aux plus sophistiqués. Cela se traduit par une amélioration, par le passage d'un état moindre à un état meilleur. On peut également exprimer cette différence du point de vue des finalités. L'objet utile est un moyen pour parvenir à l'accomplissement d'une fin qui lui est extérieure. On ne possède pas un téléphone pour posséder un téléphone, par exemple, mais pour toutes les fonctions de communication qu'il contient. A l'inverse, l'œuvre qui provoque le sentiment du beau et qui est donc belle en elle-même ne sert aucune fin extérieure à elle-même. En ce sens, l'art ne sert à rien à proprement parler. Toutefois, c'est au XVIIIe siècle que cette opposition traditionnelle est renversée par l'un des penseurs et écrivains les plus connus de cette époque, Denis Diderot. À rebours de ses prédécesseurs, il affirme la supériorité de l'utile sur le beau en se plaçant du côté des arts mécaniques plutôt que des beaux-arts. Ces derniers sont relégués en position d'infériorité par rapport aux premiers, puisque Diderot les place du côté du luxe en les privant d'une grande partie de leur valeur. Au contraire, c'est lorsque l'art porte un message, ou bien qu'il sert la société civile, qu'il est beau. C'est une pensée politique que Diderot développe ici. Les beaux-arts inutiles et luxueux sont associés au groupe dominant de son époque, l'aristocratie et le clergé, tandis que les arts mécaniques sont du côté du peuple. La hiérarchie est donc renversée, mais la séparation subsiste encore.
Et dans notre dernière émission, nous parlions justement des artisans d'art. Est-ce que cette appellation, Timothée, ne serait pas justement une manière de réconcilier la technique, en tant qu'appropriée par l'artisan, et l'art, dans le sens de ce qui porte en soi un caractère esthétique?
Exactement, Mathieu. Et nous allons voir que cette réconciliation s'effectue à plusieurs niveaux. Lorsque l'on pense à un artisan, on lui associe un savoir-faire, des techniques apprises par un long temps de pratique et qui lui permettent de transformer la matière. A l'inverse, lorsque l'on pense à un artiste, nous avons tendance à lui attribuer une sorte de génie inné qui lui permettrait de créer des œuvres esthétiques sans savoir-faire préalable. Cette idée n'est pas nouvelle, puisqu'en Grèce antique, l'artiste, et notamment le poète, recevait l'inspiration divine des muses qui lui permettait de créer des œuvres. Or, pour Étienne Souriau, philosophe français du XXe siècle, il n'en est rien. Selon lui, je cite, « L'art est avant tout la fabrication de certaines choses. » L'artiste est celui qui possède une connaissance des formes et de la façon de les représenter. Un savoir-faire, donc, auxquels sont associées des techniques apprises ou développées au fil du temps. l'autre point majeur de réconciliation entre l'artiste et l'artisan, et donc entre les beaux-arts et les arts mécaniques, se place du côté de la création. Création qui se définit comme l'action d'établir, de fonder ce qui n'existe pas encore, ou encore comme l'action de créer une œuvre ou une production originale. Or, le caractère d'originalité d'un objet ne se situe pas exclusivement dans la nouveauté de sa fonction, autrement dit, dans son utilité particulière. Un potier, par exemple, qui fabrique une tasse, ne crée pas un objet original dans le sens où la fonction qu'elle remplit ne revêt pas un caractère d'innovation. On ne pourra cependant nier qu'il s'agira d'un objet original si le potier lui aura appliqué un traitement esthétique inédit qui peut passer par la forme, les couleurs ou les motifs représentés dessus. Cette tasse sera donc bien une création originale. En conclusion, c'est en créant des objets à la fois utiles et esthétiques que l'artisan d'art opère la réconciliation entre le beau et l'utile.
Et justement Timothée, continuons ensemble sur cette idée de la création. J'aurais aimé parler de l'artisan d'art et de son geste. Pour cela, je vais largement m'appuyer sur l'ouvrage assez merveilleux du sociologue américain Richard Sennett, « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat », qui a été traduit chez Albin Michel en 2010. Un passage dans cet ouvrage a attiré mon attention particulièrement, pas qu'à bien sûr, mais celui-là beaucoup, qui affirme que chez l'artisan, je cite, « la métamorphose éveille l'esprit ». Commençons avec René Passeron qui, dans son ouvrage « Pour une philosophie de la création », propose trois critères qui font d'une réalisation une œuvre. Premièrement, le fait qu'une œuvre soit singulière. Deuxièmement, que bien qu'objet, le sens qu'elle porte en elle la fasse devenir un sujet. Et troisième critère, que le créateur soit compromis, c'est-à-dire engagé spirituellement et physiquement dans sa création. Et pour revenir à Richard Sennett et cette métamorphose, l'idée est que l'artisan vient transformer la matière, terre, métal, bois, tissu, pour la métamorphoser en un objet-sujet singulier. Le créateur est donc bien engagé dans une création singulière qui devient un sujet, et donc si le créateur est capable d'effectuer cette métamorphose dont nous parlions, c'est parce que son esprit est en éveil, car c'est cet esprit, avec les mains, qui instaure le projet de cette métamorphose. Mais le créateur est aussi métamorphosé par ce processus. La matière métamorphose le corps, les mains et l'esprit, la matière vient normer des gestes, des sensations et des perceptions. La pratique d'un matériau vient donc modeler l'esprit de celui qui façonne. Et finalement, apprendre à travailler un matériau, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. La plasticité du geste vient modeler celle de notre esprit. L'on parle même en neurosciences de la plasticité de notre cerveau. Matière et artisan s'influencent donc dans une relation qui dépasse le monde physique. Ainsi, la maxime kantienne, la main est la fenêtre ouverte sur l'esprit, prend tout son sens.
Oui, mais Mathieu, pourrait-on dire l'inverse, que l'esprit est la fenêtre ouverte sur la main ?
Très bonne question Timothée, et en tout cas, nous nous plaçons ici dans un paradigme où il n'y a pas une dualité forte entre l'esprit et le corps. Et pourtant, ce que la main est même plutôt ce que le geste sait ou arrive à réaliser, l'esprit n'arrive pas forcément à le formuler. Le sens du geste n'est donc pas transparent à lui-même, et c'est ce que le philosophe hongrois Michael Polanyi appelle le « tacit knowledge », en français, le savoir tacite. Le savoir tacite est trivialement ce savoir, cette connaissance en nous, qui est implicite et qu'il est difficile, voire impossible à expliciter. Et si Polanyi envisage principalement son concept dans l'univers des sciences, Richard Sennett le réinvestit judicieusement dans l'univers de l'artisanat, qui pour lui englobe les sciences d'ailleurs, en énonçant que, et je cite, « le travail artisanal établit un champ de compétences et de savoir qui dépasse peut-être les capacités d'explication verbale ». Et en ayant l'artisan d'art à l'esprit, nous pouvons constater qu'il est parfois difficile pour lui d'expliquer son geste. Prenons en compte par exemple la difficulté pour nous d'expliquer la simple réalisation d'un nœud coulant. Qu'en est-il alors du geste du restaurateur de tapis ? Qu'en est-il des subtilités des sensations, des perceptions, du rapport à la matière au moment où elle est métamorphosée, et à ce moment où l'artisan, en travaillant la matière, se métamorphose lui-même ? Et ainsi, au mot MOT, l'on peut alors substituer l'image, le geste comme explication. Et moi le premier, pour expliquer par exemple à quelqu'un comment couper des légumes, il m'est beaucoup plus facile de lui dire « vas-y, fais comme ça » tout en lui montrant le geste, plutôt que de lui expliquer comment faire geste par geste.
Donc, si j'ai bien suivi, la signification du geste et le geste lui-même ne sont pas transparents à la conscience de l'artisan, et pourtant cela n'empêche pas le restaurateur de tapis de restaurer son tapis effectivement.
Et c'est exact, Timothée. Il y a donc dans le geste de l'artisan plus de signification que l'on ne saurait dire, plus que lui-même ne saurait dire. Mais cela n'empêchera pas le ou la rentrayeur de restaurer son tapis. Mais si, comme nous l'avons esquissé avec René Passeron, si l'acte de création et l'œuvre sont vecteurs et vectrices de vertu et de normes, le geste menant à cette œuvre semble devoir l'être aussi. Comme Richard Sennett, nous pourrions mettre dans la catégorie d'artisans de nombreux savoir-faire et métiers. Par exemple, médecins, musiciens, chimistes, céramistes et même philosophes recouvrent tous des formes particulières de savoir-faire et de pratiques artisanales. Et donc, et c'est avec cette question que j'aimerais terminer, Timothée, j'aimerais que l'on puisse tous se demander « Qu'y a-t-il de vertueux ? Qu'y a-t-il de normatif dans le geste que je pratique dans mon artisanat personnel ?»
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre petit fauteuil de la philo. Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller écouter notre émission Le Fauteuil Philosophique, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Nous y avons reçu la restauratrice de tapis et meilleur ouvrier de France du Mobilier National, Axel Michaud. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à aimer notre page, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau petit fauteuil bien confortable, et en attendant, n'ayez pas peur de philosopher !